BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de créativité. On sera à ce sujet avec la présidente de TBWA Paris. Elle s'appelle Marina Zuber. Elle a pris la tête de TBWA Paris il y a tout juste un an. Charlotte Bricard, qui signe l'édito de la semaine, reviendra sur le bad buzz de The North Face qui a détourné Wikipédia. Et puis, on s'intéressera au palmarès du club des directeurs artistiques avec Charlotte Marmion, qui est producteur chez Iconoclast, et Dominique Marchand, associate creative director BETC et qui était la présidente du jury catégorie presse du club DDA. Et en fin d'émission, on retrouvera notre rubrique solution mailing. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et pour les news, Marie Valagne. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors à la une cette semaine, le lancement de la Coupe du Monde féminine de football, évidemment avec la campagne Dream Further de Nike.
Et oui, avec un film de 3 minutes pour donner envie aux jeunes générations de se lancer. On y voit une jeune fille de 10 ans qui accompagne des joueuses internationales pendant leur compétition. La néerlandaise Lieke Martens, par exemple, qui lui prend la main et l'entraîne en plein match. Elle fait tout ce que font ces grandes sportives, entraînement, séances photo, déplacements professionnels. Nike présente à l'occasion de cette campagne le premier maillot de foot pour filles avec ce slogan à leur intention. Ne change pas tes rêves, change le monde. La campagne est signée par l'agence Vidon & Kennedy.
Alors, il y a beaucoup de marques cette semaine qui célèbrent la Coupe du Monde féminine de football et notamment la SNCF, Marie.
Avec sa campagne, tous les buts sont possibles. Une phrase à double sens. La SNCF défend ici la place des femmes et la place des femmes sur tous les terrains. La marque fait le parallèle entre des femmes footballeuses et des femmes qui occupent des métiers techniques à la SNCF. Des postes qu'on imagine plutôt destinés aux hommes au départ, mais que ces femmes ont réussi à obtenir en suivant leurs rêves.
On nous a dit, t'y arriveras jamais. T'auras jamais le talent. T'as rien à faire ici. T'as pas les épaules. T'es pas assez technique. T'auras pas la force. T'es pas faite pour ça. On nous a dit que ce n'était pas une place pour nous. Alors on a décidé de la prendre.
Une campagne orchestrée par l'agence 65 dB.
Et puis le collectif Les Lyonnes va s'installer à Cannes à l'occasion des Lions.
Et oui, à quelques jours du festival, le collectif qui milite contre le sexisme dans la pub veut se faire entendre et remettre le talent féminin sur le devant de la scène. Les Lyonnes vont donc instaurer en parallèle du festival officiel un prix de la création équitable en analysant toutes les fiches techniques des cas présentés pour y compter l'apport du travail des femmes.
Frédéric, on peut dire que ça aura marqué cette saison quand même. Thématique du sexisme.
Non. Oui, absolument. Bah, ça a marqué cette saison parce que ça a plutôt mal commencé avec le MeToo dans les agences, avec une réaction parfois salutaire d'ailleurs dans les agences. Et c'est pas mal d'ailleurs de terminer. Enfin, c'est pas la fin, hein, mais de terminer la saison en tout cas à Cannes avec cette initiative qui va peut-être en effet faire encore avancer les choses. Ouais.
Merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Marina Zuber. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes la présidente de TBW à Paris. Ça fait un an quasiment, jour pour jour, que vous avez été nommée à ce poste. Qu'est-ce que vous retenez de cette année?
C'est une année magnifique. Quand j'ai pris mes fonctions et que Guillaume Panot m'a nommé à la tête de TBW à Paris, notre pari ensemble, c'est-à-dire on continue de hisser TBW à Paris sur la première marche du podium de la créativité. C'était notre challenge et nous avions donc réussi puisque là récemment on a eu un record historique au DNID puisque nous sommes la première agence française, on a raflé plus du tiers des prix et ceci sur 7 campagnes différentes, ce qui est vraiment énorme, dont 2 gold. On en est très fiers.
Alors, par contre, vous êtes deuxième au Hit d'Or.
Oui.
Vous
savez,
vous ne pouvez pas être premier partout, Frédéric.
On peut pas être premier partout. Non, mais vous êtes, sérieusement, vous êtes primé pour des campagnes qui sont remarquées et remarquables. McDo, SNCF, et aussi d'ailleurs des pro-domo, comme on dit, Sea Shepherd, etc. Mais pour revenir sur les marques, c'est souvent les mêmes marques au fond qui se font primer et qui sont qui ramassent les prix. C'est
alors à la fois oui, parce que c'est aussi les grands clients de l'agence, ouais. SNCF et McDo, et ce sont aussi des clients qui nous font confiance depuis un nombre d'années, donc forcément on va plus loin avec eux, on prend des risques avec eux parce qu'ils nous connaissent, mais il y a aussi des nouveaux clients comme Dagoma avec Armless Guns, mm-hmm. Qui est une campagne formidable. En fait, Dagoma, bon, on le connaît pas forcément, non. Mais c'est le leader européen de
l'impression 3D,
et en fait effectivement, les acteurs du marché vont vouloir raconter toute leur technologie, tout ce qu'ils savent imprimer en 3D. Et nous, on a eu cette idée avec le CEO de Dagoma de dire bon, on va être les premiers à dire que nous, on s'interdit d'imprimer
des armes.
Ouais. Et ça, c'était très fort. Et le fait d'avoir fait une campagne là-dessus, mais qui est complètement d'un autre genre. C'est-à-dire, on s'est dit, on va pas faire un film moralisateur. Non, on a hacké des fichiers sources, des armes, et comme ça.
Quand on l'imprime, voulait, ça marche pas.
Ça marche pas. Quand vous assemblez, ça marche pas.
Et je lisais pas mal de portraits de vous dans la presse, notamment quand vous avez pris vos fonctions. Et le truc qui ressort, c'est que vous êtes très exigeante sur le plan créatif. Alors moi, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire concrètement.
Parce que pour moi, le cœur de métier, c'est ce qui m'a fait aimer ce métier dès le départ, c'est la création. C'est son aspect à la fois artistique, mais aussi la création, c'est ce qui crée l'efficacité des campagnes sur le business de nos clients. Donc moi, c'est ce qui me fait vibrer, et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans notre métier, de travailler vraiment en collaboration avec les créatifs, les directeurs de création, le planeur. On est tous autour d'une table et on produit ensemble. C'est ça aussi que j'adore dans ce métier, c'est de se dire. Et c'est ce que j'ai appris aussi de mon expérience aux États-Unis, c'est que finalement la création, c'est l'affaire de tous dans une agence,
et y compris au poste de présidente.
Absolument, encore plus. Je continue à avoir cette exigence-là. De toute façon, je suis passionnée par la création, donc on a maintes fois l'occasion de travailler ensemble, absolument sur les sujets.
Et c'est ça qui fait venir et qui fait que les clients restent.
Absolument.
C'est le fait d'être une agence créative.
C'est ce qui crée la réputation sur le marché, et de toute façon la créativité permet l'efficacité, donc c'est totalement au service de nos clients. Donc c'est sûr que Cannes, c'est plus un prix pour notre profession, mais c'est très important aussi parce que ça attire les meilleurs talents. Donc pour les créatifs, c'est très important de savoir que chez TBWA, on produit des très belles campagnes. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une campagne qui m'est très chère, qui est Fleur sur SNCF. Ouais. Alors, elle m'est chère à plusieurs égards. C'est-à-dire que c'était déjà la première fois qu'on prenait la parole sur un sujet d'actualité, certes, mais très structurant pour la SNCF, puisque c'est le transport collectif le plus écologique. Et on l'a fait de manière totalement poétique, au lieu à nouveau de faire un film très moralisateur. Mmh. On s'est dit, bon, on va remercier nos clients et on va le faire avec des fleurs. Et on a mis en place le premier feu d'artifice naturel avec des fleurs. Parce que finalement, 5 millions de voyageurs par jour qui prennent le train, c'est autant de millions de CO2 économisés dans l'atmosphère. Mmh. Donc on voulait leur dire merci.
Comment vous avez travaillé sur cette campagne? Parce qu'elle est... Vraiment, on a l'impression de voir un feu d'artifice. Les détails sont
absolument
incroyables, la lumière est magnifique.
Alors, déjà, on avait des réalisateurs québécois qui sont très experts dans ce genre de campagne. On avait une designer fleur qui a choisi les bonnes fleurs de la bonne saison, parce qu'on pouvait pas délivrer un message sur la protection de l'environnement et importer des fleurs de l'autre bout du monde. Donc, on a choisi les bonnes fleurs. Et puis aussi les fleurs qui étaient celles qui se prêtaient le mieux, justement, à une explosion. Et voilà. Et donc, on les a... on a tourné énormément d'images par seconde pour donner cette impression d'explosion. Voilà. Mais tout a été fait naturellement, avec des vraies fleurs. Et c'est ça aussi
La beauté de la beauté. Chose,
ouais. Absolument.
Beauté de la chose. Alors, il y a la créativité, puis il y a l'engagement, justement, on en parle là. C'est devenu obligé pour les marques, et c'est devenu un passage obligé pour vous de proposer aux marques.
Alors, je dirais pas obligé, parce que ça nous intéresse. Mmh. Et c'est aussi l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus faire la publicité à la papa d'il y a 50 ans, la réclame, je te vends mon produit. Là, aujourd'hui, les consommateurs sont devenus plus exigeants, plus conscients des enjeux. Donc, je dirais que même notre métier est d'autant plus intéressant parce qu'on traite des sujets sociétaux, environnementaux, la diversité, equality gender, tous ces sujets qui sont voilà, qui répondent aux aspirations de la nouvelle génération, mais pas que, et qui traversent la société. Donc je dirais que notre métier devient encore plus intéressant parce qu'on se dit nous allons aussi pousser ce genre de cause d'engagement auprès des marques. Et c'est par exemple ce que je citais Dagoma tout à l'heure, oui. Pour voilà, contre la prolifération des armes, SNCF sur l'écologie, McDo la campagne qualité, Système U sur le mieux manger. Oui. Donc voilà, et on est fiers en fait de pratiquer ce genre de communication parce qu'on se dit qu'on voilà, on a une bonne influence et un bon impact sur la société.
Vous en parlez très bien en tout cas. Merci beaucoup Marina Zuber, la présidente de TBWA Paris.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec cette semaine, Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie.
Alors cette semaine, The North Face s'est attiré les foudres de Wikipédia.
Et oui, car la marque s'est débrouillée pour arriver en tête des recherches faites sur Google sans dépenser un sou, en tout cas en achat média.
Comment ils ont fait? Je vois pas le rapport avec Wikipédia.
En fait, vous aurez peut-être remarqué que Google se sert des résultats de Wikipédia pour répondre aux requêtes des internets. Si vous tapez par exemple le mot Mont Blanc, la page Wikipédia dédiée au sommet arrive juste après la marque du même nom, qui elle s'est offert la première place, moyennant en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc l'agence, Léo Burnett, a conseillé aux responsables de la marque, qui est spécialisée en équipement de sportifs de haut niveau, de tout bonnement et simplement remplacer les images qui correspondaient à des sites, des sommets ou de parcs nationaux recherchés par ces mêmes randonneurs et autres sportifs, par de nouvelles images shootées par leurs soins, qui mettaient en effet en scène ces paysages, mais au premier plan desquels se trouvaient des randonneurs revêtus de vêtements siglés The North Face.
Et ça, ça a marché ?
Et ça a très bien marché, puisque par définition, la plateforme étant participative, chacun d'entre nous est libre et même invité à enrichir ses contenus. Le problème, c'est que la marque, qui était très contente de son idée machiavélique, a ensuite publié un petit tuto pour raconter comment elle avait berné son monde. Alors, faute avouée, pas du tout pardonnée, puisque ça n'a absolument pas plu ni à Wikipédia, ni aux internautes, qui ont taxé l'initiative de vandalisme, qui ont accusé la marque de s'approprier un bien public, les responsables de The North Face allant même jusqu'à s'exclamer sur les réseaux sociaux « Honte à The North Face ».
Charlotte, c'est la première fois comme ça qu'une marque pirate une plateforme ?
Alors, techniquement, on peut pas parler de piratage, puisque justement, c'est plutôt un manquement à la déontologie d'un site. Mais non, ce n'est pas une première. Dove, il y a 2 ans, avait fait à peu près la même chose sur la banque d'images Shutterstock. Ils avaient en fait publié 100 d'images mettant en scène des femmes dans des positions plus valorisantes que celles qui étaient offertes par la banque d'images pour interférer avec l'algorithme et redorer un peu une vision dégradante de la femme. La grosse différence, c'est que même si la démarche était conduite par une entreprise commerciale, elle participait à défendre une cause. On sait à quel point, vous en parliez, les consommateurs sont sensibles à l'engagement des marques. Donc on peut simplement s'étonner que The North Face, qui défend un engagement écologique depuis longtemps, n'ait pas surfé sur cette tendance pour utiliser avec un peu plus de subtilité ce qui restait une bonne idée.
Merci beaucoup Charlotte Bricard.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom du jour autour du palmarès cette semaine du Club des directeurs artistiques. Charlotte Marmion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur chez Iconoclast. Et Dominique Marchand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associate creative director chez BETC et vous étiez la présidente du jury catégorie presse. Il y a eu 206 prix remis dans 20 catégories. La question que je vous pose à toutes les deux, c'est est-ce bien raisonnable?
C'est dans quel sens?
Non, on a beaucoup critiqué l'année dernière, l'année d'avant, Cannes, beaucoup trop de prix. Voilà. Est-ce qu'à un moment, on arrive à réguler ça ou ça reste de l'ordre des bonnes intentions?
Moi, je pense qu'il n'y a jamais trop de prix quand les choses sont bien et créatives. Et cette année, enfin, ce que j'ai vu dans ma catégorie, c'était très bien, même si malheureusement, il n'y en avait pas assez. On a fini très tôt dans l'après-midi, ce qui prouve qu'il n'y avait pas assez de travaux en presse. Mais bon, tout le monde sait pourquoi. Mais en tout cas, dans toutes catégories confondues, j'ai trouvé que le travail de cette année était vraiment très, très bien. Beaucoup de choses innovantes. Donc, moi, je trouve que, bon, trop de prix, c'est... Sauf quand il y a peut-être trop de prix donnés à un seul travail dans trop de catégories, ce qui avait un petit peu tué la crédibilité de Cannes je crois que c'était il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, oui.
Où là, bon, ça devenait un peu bizarre et un peu fake.
Alors, pendant lors de la remise des prix, Benjamin Marshall, qui est le vice-président du club des DA, faisait remarquer qu'il y avait de plus en plus de formats, pour le coup, se demandait si la multiplication des formats ne cachait pas moins de créativité. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous adhérez?
Pas vraiment. Enfin, en tous les cas, moi, je sais que par exemple, ils ont ouvert cette année ce qu'ils appellent au film de mode, est un petit peu le pendant du clip. Dans la publicité et qui a un moyen de faire émerger des nouveaux talents sans la pression d'une communication de marque classique ou d'une agence et je pense que c'est une des choses positives à retenir cette année.
Mais justement là, par exemple la mode et les clips, c'est de la pub? C'est comparable à des films oui. publicitaires ou pas?
Oui, parce que c'est, mine de rien, le moyen de vendre ou un artiste, ou une collection, ou une marque. C'est plus une culture que la publicité, je dirais. Et puis c'est surtout un moyen de faire émerger beaucoup de talents. En France, on voit, il y a plein de réalisateurs de clips qui marchent extrêmement bien à l'étranger. Et d'ailleurs, si on regarde le palmarès de cette année... Tous les réalisateurs qui ont gagné en publicité sont des viennent du clip.
D'accord. Donc c'est une école en fait.
C'est aussi une école.
C'est intéressant. J'avais pas fait ce rapprochement, mais effectivement, le clip pour vendre un artiste, paraît sensé. Effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Marina Zuber. C'est vrai que les marques qui sont récompensées, on retrouve quand même globalement assez souvent les mêmes, quoi. McDo, Burger King, Monoprix, IKEA, Ubisoft, Lacoste. Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est elles qui ont le plus de moyens pour la créativité, ou que les autres marques ont délaissé ce terrain-là? Comment vous expliquez ça, en fait?
Ou c'est toujours les meilleures agences, c'est toujours les mêmes agences qui...
Disons que quand un client... je ne dis pas qu'il n'y a que des très bons clients et des mauvais clients, mais en tout cas, on retrouve dans les marques qui sont primées le courage des clients qui les ont achetées à chaque fois. Donc, c'est assez normal que d'une année sur l'autre, l'ADN d'une marque ne change pas radicalement et qu'elle se retrouve à avoir des prix d'une année sur l'autre.
Et souvent aussi une relation de confiance entre les agences et les clients.
Oui, c'est vrai.
Qui font que... Les clients vont faire confiance à la création que leur livrent les agences et laisser beaucoup plus de place, du coup, à la créativité, à aller plus loin en termes de communication.
On en parlait tout à l'heure dans les actus. C'est une année particulière dans la publicité, avec l'affaire du MeToo. En tout cas, dans le palmarès, on peut pas dire qu'il y avait énormément de femmes.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Je crois qu'il y a 8% de femmes qui ont été primées au club des DA. La réalité, c'est que c'est un monde où il y a peu de diversité. Il n'y a pas que le problème des femmes, il y a peu de diversité d'origine sociale, peu de diversité de couleur, peu de diversité d'orientation sexuelle. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une communication qui est trustée souvent par ce qu'on appelle l'homme blanc de 40 ans. Pas que ce soit l'ennemi, mais en tous les cas, je crois que sur l'année dernière, on est aux alentours de 5% de films réalisés par des femmes en France, ce qui est assez consternant. Heureusement, il y a des gens qui essaient de faire bouger les choses. Il y a l'association Free the Beat qui se bat pour plus de diversité. Il y a dans le cinéma, il y a le collectif 50-50. On voit qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, les choses bougent de plus en plus parce que c'est indispensable pour les marques. Les marques peuvent pas se passer du point de vue des femmes. Déjà, c'est plus de la moitié de la population, ce qui est pas négligeable. Et je crois que
c'est elle.
Elle cachette quand même globalement
80% des achats, c'est les femmes.
Oui.
Donc c'est impensable d'imaginer que les annonceurs peuvent se passer du point de vue des femmes en communication.
Bon, chez les ingénieurs, il y en a quand même 15%.
Voilà, donc
c'est deux fois plus.
Je crois qu'il y en a plus dans l'armée aussi.
Ah oui, alors bon.
Donc
avec Frédéric, à cette époque de l'année, on aime bien essayer de savoir, au regard des palmarès, ce que vous pensez que ça peut donner en termes de tendance pour les années à venir, s'il y a des choses qui se dégagent, par exemple, Dominique Marchand.
Alors, il y a une tendance, je pense, qui va continuer, c'est celle des marques vertueuses, que je trouve à la fois formidable, parce que, disons que c'est toujours très emballant de voir des marques qui s'engagent, qui ont envie de faire bouger les choses, etc. Là où je mettrais un bémol, c'est que, par exemple, quand... je crois que c'était Whirlpool en Amérique qui avait mis des machines à laver dans les lycées en disant, enfin dans les écoles plutôt, plus de enfin les écoles maternelles ou je ne sais plus, en disant que les enfants pouvaient pas se laver chez eux certains et que donc il fallait qu'ils puissent laver leurs vêtements à l'école. Formidable, mais enfin ça montre une telle faillite politique. Donc quand les marques doivent avoir un discours moral et s'engager en faveur de la diversité, en faveur de tout ça, c'est très bien, mais aussi c'est qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'elles peuvent être la caisse de résonance du citoyen qui va dire « je vais boycotter telle marque, je vais en choisir telle autre ». Mais enfin, quand on voit qu'en Russie, on n'accepte rien où il y a quelqu'un de couleur, que les marques françaises sont obligées, enfin les internationales, de faire attention à leur casting quand elles savent que le marché est russe, quand on sait qu'on peut même pas aller en Russie quand on est noir sans risquer de se faire casser la figure, on va dire que toute cette vertu partout, c'est fantastique. Mais d'abord, le problème, il est politique.
Elles ont un rôle aujourd'hui politique, les marques, de plus en plus, c'est ça que vous êtes
Oui, je pense en Amérique particulièrement, elles peuvent même influer sur... Enfin, pas influer, mais elles essaient d'influer parfois sur les élections, elles s'engagent très fortement, et on a vu le résultat, il est quand même Trump. Donc, il y a quelque chose qui devrait... Enfin, c'est très bien, mais il faudrait peut-être le faire d'une manière peut-être aussi plus citoyenne. Que les citoyens ne fassent pas que boycotter des marques, mais aillent plus voter, lisent plus la presse.
La vraie ça, pour le coup, c'est pas du ressort des marques.
Pas Russia Today, mais en tout cas, Le Guardian, Le Monde, des choses comme ça.
Merci beaucoup Dominique Marchand. Je rappelle que vous êtes associée créative directeur chez BETC, que vous étiez donc présidente du jury catégorie presse du club DDA, et Charlotte Marmion, producteur chez Iconoclast. Merci à toutes les deux.
Professionnels de la communication, inspirez-vous des plus belles opérations de mailing avec La Poste Solution Business.
BFM Business, Hebdo.com, Solution Mailing.
Avec Éric Trousset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement de la Business Unit Média à La Poste et on parle avec vous de l'étude Balmétrie qui mesure l'impact du média courrier auprès des consommateurs. Je lisais que 82% des consommateurs, des Français, relèvent tous les jours leur boîte aux lettres. Alors, je me demandais si c'était juste une habitude ou si c'était parce qu'ils avaient encore une affection particulière avec ce média.
C'est un peu les deux. En fait, c'est un chiffre qui est très stable dans le temps.
Ah oui.
Il y a en fait une ritualisation de l'ouverture de la boîte aux lettres, même si il y a moins de courriers personnels qu'il y a un certain nombre d'années. On a l'habitude d'ouvrir. C'est un lien. En fait, le courrier, c'est aussi un lien social. Même quand il est purement publicitaire, il y a des marques avec lesquelles on a envie d'interagir, qui apportent de l'information. Et c'est ce qui fait que cette habitude... Ça s'est transformé peu à peu en rituel.
Alors justement, quel impact ensuite on s'est courrier sur le consommateur? Parce que ok, on ouvre notre boîte aux lettres, très bien, mais après?
Le après, c'est ce qui est extrêmement important et qui est très différenciant en tant que média, c'est que c'est le seul média qui est totalement choisi. C'est-à-dire que je vais choisir les marques avec lesquelles je vais interagir, déjà que je vais lire, je vais choisir mon lieu de lecture. Il y en a qui vont commencer à lire les courriers dans le hall de l'immeuble ou en bas de chez eux, d'autres qui vont les remonter dans leur maison, dans leur appartement. Je vais lire dans ma cuisine, dans mon salon, dans le couloir. Enfin, et puis je veux aussi choisir mon rythme de lecture.
Mais c'est important ça.
Ben tout ça c'est contributif à l'efficacité parce que je choisis le contact.
Donc mon cerveau est plus disponible, c'est ça en fait.
Exactement.
Que vous êtes en train de dire.
Il y a effectivement une disponibilité et une envie. Si j'ai pas envie de prendre connaissance de l'offre qui m'arrive, je mets de côté mon courrier, j'y reviendrai plus tard. Et donc c'est vraiment ce côté de média choisi qui fait toute la richesse du levier courrier.
Et c'est valable aussi chez les jeunes, où il y a quand même une désaffection du courrier papier chez les jeunes.
En fait, il y a un double phénomène. Les marques écrivent moins aux jeunes, persuadées que c'est au travers des réseaux sociaux qu'on va les toucher. Mmh. Ça, c'est effectivement incontestable. Mais les marques oublient que finalement, quand on fait l'effort d'écrire aux jeunes, par courrier, ils le lisent. Et surtout, là, c'était une des nouveautés, je dirais, de cette année de Balmétrie, c'est d'avoir pu creuser les effets Drive to Web et surtout Drive to Store. Parce que là aussi, on pense que le jeune, aujourd'hui, il est totalement digital. Et en fait, ils aiment aller en magasin. Et surtout, ce qu'on a pu prouver avec cette dernière vague de Balmétrie, c'est que ce sont les 15-24 ans qui sont les plus réactifs aux courriers adressés. C'est-à-dire qu'ils vont soit aller en magasin, soit être incités à y aller bien plus que leurs aînés, ce qui est plutôt surprenant.
Effectivement. Et au cours des 7 ans, là, où vous réalisez depuis 7 ans cette étude Balmétrie, est-ce qu'il y a des changements particulièrement marquants, des mutations comme ça que vous avez observées ?
Non, très peu, parce que finalement, le courrier publicitaire est tellement installé, je dirais, dans le quotidien, que il y a ce côté ritualisation aussi qu'on évoquait précédemment, fait que les mouvements sont très lents. Et comme finalement beaucoup d'habitudes, il y a souvent d'ailleurs un décalage entre la volonté des marketeurs qui sont à la recherche de nouveautés, d'innovations pour porter leur marque, et puis des usages qui sont ancrés dans les habitudes. Alors il faut effectivement savoir jongler avec les deux, mais il est clair que en 7 ans, il n'y a pas eu d'évolution majeure dans les usages.
Donc le courrier résiste.
Le courrier résiste et surtout c'est une belle opportunité de différenciation pour les marques.
Merci beaucoup Eric Trousset. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de la Business Unit Média de La Poste. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business. Et on parlera podcast et puis on parlera aussi de la Coupe du Monde féminine de football et de la relation entre les sportives et les marques. À la semaine prochaine.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.